On va rejoindre au téléphone Maître Catherine Sylvestre du cabinet Sylvestre Pinchot et Associés. Bonjour, Maître Sylvestre.
Bonjour, M. Langlois.
Maître Sylvestre, vous êtes impliqué depuis le début dans le dossier du recours collectif contre Alcoa. C'est la date que moi j'ai vue officielle du début de l'affaire, c'est le 25 août 2005, c'est ce que j'ai vu. Et pour la première fois, ce que vous avez communiqué avec les médias, parce qu'il y avait d'autres étapes par la suite, mais c'est le 18 mars 2022 que vous avez publié là, publiquement un communiqué de presse pour dire qu'il y avait eu une entente. Mais il restait encore des étapes, mais il y avait eu une entente à ce moment-là. Pourquoi ça a été aussi long?
C'est difficile à expliquer. En fait, chaque dossier a son rythme. À cette époque-là, c'est sûr que les procédures étaient un peu plus longues aussi. Mais je pense que c'est un dossier qui avait besoin aussi de mûrir là, avant qu'on puisse le régler. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, l'action collective, elle avait trois objectifs principaux. Là. On demandait la réduction des émissions atmosphériques des HAP en provenance de l'aluminerie. Les membres voulaient aussi avoir de l'information quant à l'état de leur terrain et de leur maison et à la présence potentielle de contaminants. Puis ils voulaient également obtenir des dommages. Fait que chacune de ces étapes-là a pris une certaine période avant de pouvoir être réglée. Là. Entre autres, en 2013, l'aluminerie a finalisé le remplacement de l'ensemble des cuves Söderberg, ce qui a permis de réduire les émissions atmosphériques de HAP à des plus acceptable. Ensuite, il y a des expertises qui ont été faites de part et d'autre, mais aussi des expertises qui ont été ordonnées par le tribunal là, pour que tout le monde travaille avec les mêmes données, notamment en ce qui concerne l'état des maisons. Fait que ça a pris quelques années pour pouvoir compléter ces expertises-là aussi.
Okay.
Donc, il y a eu plusieurs étapes dans le dossier. C'est pas un dossier qui a été dormant, au contraire. Là, c'est un dossier pour lequel il y a eu des débats réguliers et du travail constant là, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui encore.
C'est pas votre premier dossier. Vous avez mené plusieurs recours collectifs. Pouvez-vous nous donner, avant que je poursuive là, avec mes questions, peut-être un exemple ou deux de recours collectifs que peut-être les gens ont déjà entendu parler?
Bien, en matière d'environnement, notre bureau, il y a peut-être un dossier là, qui a été plus médiatisé que d'autres, celui qu'on appelle des motoneiges là, sur la piste du petit train du Nord, sur une petite section là, où est-ce que des motoneiges causaient des inconvénients importants aux riverains de la piste. Okay. Il y a eu également en matière de fraude financière, là, des retraités surtout qui avaient perdu une grosse partie de leurs investissements là, dans la région de Gatineau pour lesquels on est allé à procès puis qu'on a eu gain de cause. Il y a eu des inondations ou un problème avec un pont à Sunnybanks en Gaspésie. Ça fait en fait une quarantaine, ça fait depuis le début des actions collectives que notre bureau nous en faisons. Évidemment, moi, j'étais pas là dès le départ, mais la liste des recours qui ont été faites par le bureau est assez longue.
Là. Donc, suite à ça, est-ce que c'était un incontournable, dans le fond, que Alcoa n'admette pas que les émissions pouvaient causer des inconvénients ou des inquiétudes pour les gens de Saint-Georges? Parce que ça revient régulièrement que la compagnie, pour avoir une entente, puis après ça, bien, que le dossier soit fermé puis que les autres n'entendent plus parler, c'est une clause qui est importante aussi à aller chercher pour eux.
Bien, évidemment, je ne peux pas me prononcer pour Alcoa. Dire si c'est un incontournable pour eux ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est fréquent, en fait, en matière de règlement, là, que ce soit en action collective ou dans d'autres domaines, de faire des règlements sans admission de responsabilité. Parce qu'il y a différentes choses qui peuvent motiver un règlement. Là. C'est l'évaluation des coûts, des risques de différentes choses. Donc, je peux pas présumer là, de ce qui était en arrière de la tête d'Alcoa là, dans la décision okay. de faire un règlement, mais je vous confirme que c'est effectivement fait sans admission de responsabilité de leur part.
Oui, c'est ça. Et dans quelle mesure l'arrivée de l'honorable M. Clément Gascon a donné un coup de main aussi au règlement?
Ben, je pense que c'est un processus qui a été important. C'est sûr que toute médiation est entourée là, d'une certaine confidentialité, mais je pense que ça a été important là, qu'il y ait l'intervention d'un tiers puis une rencontre entre les parties qui s'est échelonnée là, sur quelques jours pour avoir des discussions franches et pouvoir ultimement arriver à un règlement.
OK. Donc, on est arrivé à un règlement de 13 millions de dollars. Donc, à la suite de ça, il y avait des étapes importantes. Il fallait retourner en cours de votre côté, entre autres pour le plan de distribution. Qu'est-ce qui a été convenu finalement pour le plan de distribution?
Ben, en fait, ce qui a été convenu, puis pourquoi il fallait retourner, c'est que n'importe quelle entente en matière d'action collective là, doit être approuvée par le tribunal, également le plan de distribution qui était proposé. L'entente avec Alcoa prévoyait qu'on avait l'entière discrétion là, de proposer le plan de distribution qui nous semblait le plus approprié au juge Lachance. C'est ce qui a été fait. Nous, on a présenté un plan qui divise le quartier en 5 zones en fonction des zones qui ont été le plus affectées et des zones qui ont été les moins affectées. Et on a fait une division entre 4 types de réclamations, ce qui nous apparaissait être la manière la plus équitable là, de tenir compte des niveaux d'inconvénients subis par différentes personnes à différents titres, là, que ce soit à titre de propriétaire ou à titre de résident dans certains secteurs.
OK. Puis à ce moment-là, est-ce que vous avez eu le maximum de demandes? Puisqu'on parlait au départ d'environ 1600 personnes. Est-ce que vous avez eu combien de gens qui ont déposé le formulaire?
Bon, en fait, il y a eu un peu plus que 1600 formulaires qui ont été déposés, là. Je pense que c'est autour de 1636, mais je ne suis pas certaine à 100% du chiffre. Mmh. Pour nous, c'est un taux de réclamation là, qui est excellent en matière de recours collectif. On estime que c'est un taux de réclamation d'un peu plus de 80%. C'est sûr que ce sont des estimations, dans le sens où on n'a pas de chiffre exact du nombre de membres de réclamants potentiels, mais sur la base des statistiques, du nombre de résidents dans le quartier puis d'un certain taux de roulement aussi, on estime là, que c'est un taux de réclamation qui est très élevé là, pour une action collective.
Puis à l'époque, on disait aussi, on se demandait, puis c'est clairement écrit là, dans les documents, mais s'il restait de l'argent, qu'est-ce qui se passait avec ça? Est-ce qu'il restait de l'argent, ce qu'on appelle dans votre domaine les reliquats, là, ce que j'ai compris, et est-ce qu'il y en a resté de l'argent, finalement, même si vous avez eu au-delà là, du nombre de personnes qui ont fait des réclamations?
Bien, en fait, dans le protocole de distribution qui a été proposé et approuvé par le tribunal, on avait mis sur pied un système de points pour s'assurer que l'ensemble du montant soit distribué. Donc, plutôt que d'établir une valeur par rapport à chacun des types de réclamations pour les différentes zones, on attribuait un certain nombre de points. Donc, c'est le montant total qui était disponible pour être distribué, qui a été divisé par le nombre total de points qui ont été réclamés, qui a déterminé la valeur de chaque point, puis en multipliant par le nombre de points pour une réclamation, ben, on obtenait le montant du chèque qui était transmis à chacun des membres. Ça, c'était dans le but de justement pas avoir de reliquats et de s'assurer que tout l'argent qui était disponible était distribué aux membres du groupe, qui sont les personnes qui ont souffert de la situation. Mmh. Ceci étant dit, il n'est pas impossible qu'un petit reliquat, dans l'éventualité où certains chèques pourraient ne pas être encaissés. Ça, il n'y aura pas de deuxième distribution, mais on ne s'attend pas à ce que ces montants-là soient importants.
Puis c'est 6 mois, je crois, que les gens ont pour déposer?
Oui, exactement. Les gens ont 6 mois pour déposer leur chèque. Donc, pour le moment, il n'y a pas de reliquat, mais si jamais il y a quelques chèques qui n'étaient pas déposés, c'est pas impossible qu'il y en ait un petit... ultimement, là, au bout du processus.
Puis il y a une autre étape aussi, vous deviez retourner en cours pour les honoraires, parce que il y a certaines personnes que ça a chatouillé un petit peu. Moi, j'ai lu les documents, j'ai compris la démarche, là, parce que c'est pas vous qui avez décidé comme ça, de façon, en tirant dans un sac un pourcentage de combien vous alliez obtenir pour ce travail-là qui a été effectué là, sur une très longue période. Donc, c'est des honoraires d'ici avec les taxes, là, si j'ai bien noté, de 3 millions environ 700 000 un petit peu plus. Puis on disait que pour 1600 personnes, ça représentait des honoraires d'environ 2 000 par personne. C'est ce que j'avais lu. Vous, comment vous avez justifié devant la Cour ces montants-là qui vous ont été accordés?
Bien, d'abord, première chose, ça nous a été accordé parce qu'on est avocat du groupe, mais ce montant-là est partagé aussi avec d'autres bureaux, puis il y avait des paiements qui ont été faits aussi avec des bureaux avec qui on a collaboré. Donc, ça ne vient pas directement entièrement à notre bureau. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une entente d'honoraires puis une convention de services professionnels qui a été signé avec les représentants du groupe en 2004-2005, avant qu'on débute le dossier. Puis cette entente-là prévoyait les pourcentages qu'on a réclamés, puis qu'on a obtenus, qui ont été approuvés par le tribunal. Mais l'entente prévoyait aussi que les membres, pendant toutes ces années-là, il n'y avait pas de risque financier, que c'était nous qui les assumions avec l'aide du Fonds d'aide aux actions collectives. Donc, de 2005 à 2022, au moment où il y a eu le règlement, nous, on n'a pas eu d'honoraires. On a pris ça complètement à risque. S'il n'y avait pas eu d'entente ou si on était allé à procès et qu'on avait perdu le procès, on n'aurait pas été payé toutes les années pendant lesquelles on a travaillé et investi vraiment beaucoup de temps dans le dossier. Mmh. C'est sûr que quand on regarde le montant global après coup, on se dit que c'est un montant qui est important, mais après ça, quand on le regarde par rapport au risque qui a été assumé par notre bureau, quand on le regarde par rapport au temps qui a été investi, c'est des montants ou des pourcentages qui sont reconnus comme étant raisonnables là, dans le domaine des actions collectives. Il faut voir aussi que les dossiers, on ne les gagne pas tous. On a beaucoup des honoraires quand on gagne nos dossiers, mais il y a plusieurs dossiers dans lesquels on a été impliqués, où est-ce qu'on a été à procès, qu'on a tenu à bout de bras pendant 12-15 ans, puis que finalement on a perdu en bout de ligne, puis dans lesquels on n'a reçu aucun honoraire. Donc, pour nous, en termes de modèle d'affaires, on en perd, on en gagne, mais quand on en gagne, il faut qu'on soit rémunéré suffisamment pour être capable de financer la pratique, même dans les dossiers qu'on perd.
Je comprends très bien. Puis vous avez dû démontrer ça aussi devant un juge là, pour que ça soit accepté. Donc, les différents critères que vous nous parlez, ça a déjà été démontré aussi. Parce que ça, c'est l'envers que les gens connaissent peut-être pas, là.
Ben, effectivement, nous, nos honoraires en matière d'action collective, non seulement ils sont on en obtient juste en cas de succès, mais même en cas de succès, ils doivent être approuvés par un tribunal qui doit évaluer leur raisonnabilité. Donc, dans l'éventualité où notre entente qu'on avait signée en 2005, telle qu'appliquée au règlement ou si un jugement, un juge aurait pu arriver à la conclusion que c'est trop élevé et qu'il décide de les réduire, on n'aurait certainement pas pu demander plus que ce qui était prévu dans notre entente initiale, mais c'est toujours possible qu'un juge décide de les réduire, s'il juge que ce n'est pas raisonnable. Dans ce cas-ci, le juge connaissait bien l'ensemble du dossier, l'ensemble du travail qui a été fait, puis il a bien analysé le dossier et il a fait droit à notre demande qui est conforme à l'entente qui avait été signée il y a 18 ans avec les représentants du groupe.
Bien, merci beaucoup, Maître Catherine Sylvestre. On peut dire effectivement que c'est un dossier terminé parce que depuis 2013, comme vous l'avez mentionné, le procédé Soderberg est terminé chez Alcoa, ce qui diminue énormément les émissions. En tout cas, ça serait réglementaire selon ce que prétend Alcoa. Et c'est un procédé qui était là depuis 1956. Donc, c'est normal que des gens, à un moment donné, ont voulu être compensés. Puis, vous avez réussi à aller chercher quand même un bon montant. Il y en a qui étaient très heureux, j'en connais personnellement, qui étaient très
contents de l'entendre.
Oui, qui étaient très contents d'avoir cet argent-là, qui n'était pas planifié. Hein? Puis ces temps-ci, avec l'inflation, c'est toujours le fun d'avoir de l'argent qui n'était pas planifié. Donc, merci beaucoup. Vous êtes du cabinet Sylvestre Pinchot et associé Maître Catherine Sylvestre. Passez une excellente journée. Merci beaucoup.
Merci, vous aussi. Au revoir.
Au revoir.